La preuve que la politique ce n'est plus ce que c'était, cette preuve, vous la trouverez dans ce sondage, publié cette semaine par Paris Match sur la sympathie inspirée par les hommes politiques. Que s'est-il passé en 30 ans pour que l'on demande à un homme politique d'être sympathique? Ce qui est à peu près aussi logique que de demander à un footballeur de danser le lac des cygnes. Un politique a besoin d'une multitude de qualités, le courage à coup sûr, l'indifférence, pourquoi pas, la vision à l'évidence, mais la sympathie à quoi bon? Ranger les présidents par la sympathie qui nous inspire, avec dans l'ordre d'arrivée sur le podium Chirac, Mitterrand, De Gaulle, dire de Gaulle qu'il était sympathique, c'est un peu comme expliquer que Napoléon était confortable, Churchill économe, c'est parfaitement hors sujet. Car enfin, la sympathie est une qualité qui ne concerne que vos proches, c'est essentiel d'avoir des amis, des voisins, des collègues sympathiques. Mais le président, vous ne le rencontrez jamais, ce n'est pas un camarade, c'est un élu, il n'a pas à vous tenir compagnie, il est là pour gouverner. Dès lors, se demander s'il est sympathique, c'est appliquer à la sphère publique des qualités requises dans la sphère privée. En somme, c'est mélanger le public et le privé, quelque chose d'aussi absurde que de dire de sa compagne ou de son compagnon qu'on l'aime parce qu'il vote bien les lois ou négocie bien le budget. Se demander si les politiques sont sympathiques, c'est cela, la pipobilisation. Inutile d'explorer la vie privée des individus, il suffit de confondre le public et le privé. Voilà pourquoi ce sondage sur la sympathie inspirée par les hommes politiques est en réalité profondément antipathique.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et l'on va parler jardinage avec des gens sympathiques, avec mes camarades Noël Bréham. Bonjour Noël.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes productrice des Petits Bateaux sur France Inter à 19h30 le dimanche et du magazine Silence ça pousse qui est diffusé tous les mercredis soirs sur France 5. Mon autre camarade Alain Baraton. Alain, vous êtes également sur France Inter dans la matinale du week-end et vous êtes aussi responsable des jardins de Versailles, jardinier en chef du domaine national du Trianon et du Grand Parc de Versailles.
Bonjour Guillaume.
Ça avait l'air de vous étonner tout ce que j'ai dit sur vous. Alors, vous publiez l'encyclopédie Flammarion du Jardin et vous expliquez comment planter un rosier, faire un trou, mettre le rosier, arroser.
Tous ces gestes simples, indispensables si l'on veut un beau jardin, voyez-vous.
Et c'est de cela dont on va parler. Et puis nous sommes également en compagnie de deux autres personnages sympathiques. Tout d'abord Thierry Basset, bonjour. Vous êtes jardinier en chef du domaine de Chantilly, vous êtes le régisseur des Journées des Plantes qui se trouvent donc à Chantilly et qui auront lieu les 15, 16 et 17 mai prochains. Qu'est-ce qu'on va trouver, Thierry Basset, dans ces Journées des Plantes?
Alors tout à fait Guillaume, à Journées des Plantes je vais rajouter Courson, parce que c'est une première dans la filière, c'est les Journées des Plantes de Courson qui sont transmises au domaine de Chantilly. C'est une première, ça ne s'est jamais fait dans la filière. C'est une manifestation qui est connue depuis 32 ans et vous allez trouver dans cette manifestation ce que vous trouviez depuis 32 ans, c'est-à-dire de la graine jusqu'à l'arbre, l'arbre prêt à planter. Avec vivaces, bien sûr, les bulbes, et puis toutes sortes de conseils, puisqu'il y aura les architectes paysagers qui seront là pour vous conseiller, et bien sûr les producteurs, c'est ça le plus important, parce que c'est la base de cette manifestation-là, c'est bien sûr les producteurs.
Et c'est évidemment une manifestation à ne pas rater pour tous les amoureux des plantes qui ont la possibilité de se rendre à Chantilly entre donc le 15 et le 17 mai. Les Français adorent le jardinage. Et cependant, Patrick Lory, vous qui êtes président de la FNMJ, la Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie, eh bien, vous dites que c'est un qui actuellement en souffre un peu.
Il y a beaucoup d'engouement. On voit par les salons, on le voit par ailleurs souvent dans la relation des presses. Et quand on reprend nos collègues producteurs ou nous-mêmes, on est en récession depuis maintenant 3 années. Donc ça veut dire que Il y a beaucoup d'intérêt et ça ne reflète pas aujourd'hui ce qui se produit en consommation.
En quoi consiste votre métier, Patrick Lory? Parce qu'on va souvent dans les jardineries, mais finalement, on ne connaît pas très bien ce métier.
Alors, c'est un syndicat professionnel qui représente les spécialistes de l'univers du jardin. Donc la jardinerie, c'est un lieu particulier parce qu'on est peut-être un des seuls à avoir un outil adapté à la plante. Il a fallu qu'on adapte notre structure à ce que la plante puisse éventuellement être entretenue, présentée et même croître. Donc on a une spécificité notoire, on a beaucoup de surface, et malheureusement, je suis plutôt économiste que jardinier quand je suis président de fédération, on a le plus faible rendement au mètre carré de toute profession, de toute forme de commerce sur le plan national. Donc c'est tendu pour nous parce qu'on est reconnu comme des grandes surfaces alors qu'on est des gens spécialisés avec que des spécialistes. Et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure sur les différents métiers que je représente.
Les Français se plaignent, ceux qui en tout cas ne tiennent pas de jardinerie, les Français se plaignent du prix des plantes, les trouvent généralement trop élevés. Qu'avez-vous à leur répondre ?
Alors j'avais toujours, moi-même j'ai exploité plusieurs années des magasins et je posais cette question-là sur le prix du gigot et le prix de la plante. Le gigot dominical, il dure à peu près 2 heures de satisfaction. Si jamais vous mettez le même prix sur une plante, quelle qu'elle soit, je pense qu'on peut avoir 10, 20 ou peut-être 30 années de satisfaction. Donc voilà ce que j'aurais à répondre.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des modifications profondes ? Parce qu'on sait que c'est un métier qui est soumis à des tendances. Alain Baraton, vous avez vu depuis votre entrée dans la carrière de jardinier, vous avez vu beaucoup de modifications. Quelles ont été les principales évolutions ? Et aujourd'hui, finalement, quels sont les goût des Français en matière de plantes.
Alors, il est vrai que le jardin suit les modes, bien évidemment. Alors, les modes ont considérablement changé avec le temps. On est revenu vers des jardins, quand on veut un jardin. On a un petit peu quitté ce côté jardin trop rigoriste. On veut maintenant un petit peu de légèreté. On veut du rêve, on veut de la fantaisie. Le problème, c'est que souvent, ce rêve s'accompagne d'un souhait de plantes exotiques. Et l'on voit arriver dans les jardins ou dans les maisons, eh bien, des plantes qui viennent de très très loin et qui ne sont pas très, j'allais dire, rentables en termes d'économie, voire même d'écologie. Mais je voudrais, si vous le permettez, revenir sur un problème financier aujourd'hui. On s'étonne du prix des végétaux. Je voudrais dénoncer, si vous le permettez bien sûr, une sorte de petit scandale. Saviez-vous qu'en France, en fin d'année, les pépiniéristes sont taxés sur les stocks ? C'est-à-dire qu'un arbre non vendu va coûter de l'argent. Contrairement à leurs voisins étrangers, où là les pépiniéristes ne sont pas imposés sur ces stocks. Moralité, l'arbre, lui, continue de prendre de la grandeur et donc prend de la valeur. Aujourd'hui, 90% en moyenne des grands arbres plantés dans les collectivités et 100% des arbres plantés à Versailles viennent d'Allemagne. Ne serait-il pas grand temps de reconsidérer la fiscalité des pépiniéristes français, un, pour permettre à cette filière qui emploie quand même, je parle de tous les métiers du paysage et des fleuristes, 200 000 emplois par an, 5 milliards d'euros, c'est considérable, de leur redonner un petit coup de nerf, très certainement. Et puis, quand on parle d'écologie, faire venir un arbre d'Allemagne qui a transité souvent par l'Italie, est-ce vraiment raisonnable ? Donc voilà la mode aujourd'hui des plantes qui viennent de plus en plus loin, et j'espère que la mode de demain, ce sera un petit peu comme pour la cuisine, des plantes régionales.
Un auditeur nous demande si ça rapporte beaucoup de radis. Les jardins, on écoute Camélia Jordana, Colonel Chagrin, et tout de suite après, on va parler de Colonel Jardin. Qu'est-ce qu'il faut planter actuellement ? À quoi faut-il veiller ? Avec vos questions au 01 45 24 7000 et une réalisation signée Olivier Bétard avec ce disque choisi par Thierry Dupin.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Colonel Chagrin, colonel de plomb, pleure des canadaires et des cotillons. Pour une fille partie, colonel de pluie, s'ennuie. Pleure donc pas comme ça, colonel bidon, si t'es un garçon, si t'es un garçon. Les filles, c'est des connes, colonel marron, et toi t'es qu'un con. Colonel vaurien, caporal miné, joue les astronautes et dans les nuées. Tu cherches rien d'autre, tu cherches rien d'autre que ta bien-aimée. Comme ça, colonel mouillé, à regarder le ciel, à à penser qu'à elle, c'est fini les balles, les Negresco, colonel K.O.
Chagrin fait sangloter Alain Baraton, ses services publics sur France Inter. Nous parlons du jardin, du jardinage, car c'est le printemps et il est temps de s'y mettre, n'est-ce pas, Noël Bréham,
oui,
qui est également des nôtres et que l'on peut entendre sur les petits bateaux et voir dans Silence ça pousse. Et puis nous sommes également en compagnie de Thierry Basset, qui est jardinier en chef du domaine de Chantilly et qui nous a parlé des journées des plantes de Courson à Chantilly les 15, 16 et 17 mai prochains. Patrick Laurie, qui préside la FNMJ, la Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie. Alors on a parlé des prix des plantes, car ceux-ci sont élevés, et Noël Bréham a une idée.
Ah mais plein d'idées. Franchement, je suis d'abord, moi je suis pas jardinière, mais à force de co-animer, je n'anime pas toute seule avec Stéphane Marie cette émission de jardin, et puis même autrefois, on peut avoir des plantes pour pas un rond. Moi, il y a une vieille dame qui habite en face de chez moi, elle fait partie d'une génération où le jardin s'est fait pour les plantes. Pour les plantes qui se mangent. C'est un potager, ce qu'elle appelle un jardin. Donc les fleurs, elle les met devant chez elle dans des boîtes de conserve. Ça lui revient à zéro franc, zéro sou. Elle met de la terre dans ses boîtes de conserve et ça, elle les transforme en pot. Mais elle a plein de pots, c'est ravissant. Les graines, vous les gardez. Moi, j'ai volé chez Alain Baraton 10 cm de sauge bleue.
Quelle honte.
Ça a été le premier à faire de la sauge bleue. Il n'y en avait pas à l'époque.
Vous avez volé des choses
un petit bout de branche de 10 centimètres.
Le drame, c'est que Noël n'est pas la seule à le faire, et je ne parle pas de Noël comme étant une vieille dame, mais la spécialité des vieilles dames à Versailles est de nous piquer des petites plantes, des boutures. Et quand des milliers de gens font des boutures, ça fait des ravages, madame.
Ça évite la taille, peut-être.
Merci.
Alors, il y a d'autres méthodes.
Mais on peut garder ses graines, Guillaume. Les graines de cosmos, on les garde d'une année sur l'autre. Ça vaut 0 francs, 0 sous.
C'est souvent un manque de connaissances. Nous, nos spécialistes dans nos magasins sont capables d'apporter ce conseil. Alors, on peut vendre de la graine de base, et puis ensuite, effectivement, développer cette possibilité ou cette facilité de faire.
Il y a des échanges.
N'allez pas trop vite, parce que tout à l'heure, Thomas Chauvineau s'est promené en micro caché dans une jardinerie. On va voir ce qu'il a ramené. En attendant, nous avons une auditrice au standard, Liliane, qui nous appelle d'Alfortville, un coin champêtre, quand on a un balcon, n'est-ce pas, Liliane?
Oui, bonjour.
Bonjour, Liliane.
J'ai une terrasse, une grande terrasse de 50 mètres carrés qui est située plein sud-ouest. Et donc, j'ai du mal. Elle est ventée et ensoleillée. Donc, j'ai du mal à faire pousser des plantes. Donc, je voudrais avoir des idées du type de plantes et de fleurs que je puisse y mettre.
Alors, quand c'est vanté une terrasse, qu'est-ce que l'on peut faire? Alain Baraton sourit, je sens qu'il a une mauvaise idée.
Ah, pas du tout, mais je crois que le propre du jardin, du jardinier, est de regarder déjà ce que font les voisins. Je pense que notre ami a peut-être un voisin.
Liliane, est-ce que vous avez des voisins?
Oui, j'ai...
Alors, qu'est-ce qu'ils font, vos voisins? Enfin, pas tous les jours, vous voyez, mais qu'est-ce qu'ils font sur leur balcon? Sur leur balcon.
Donc, il y en a un, il n'a rien mis comme moi.
Oui.
Ça, c'est un bon départ.
Et donc, un autre, des bambous, je crois.
Aïe.
Ouais. Non, ça, il faut éviter.
À éviter sur un balcon, voilà. Oui.
Non, déjà, il y a une règle, je crois, générale, qui est de prendre des végétaux de petite dimension. Un végétal, quand il est planté petit, va tout simplement s'adapter. Moi, j'en profiterai, vu qu'il est difficile apparemment de profiter de l'exposition. Eh bien, pourquoi ne pas se faire plaisir? Noël parlait, il y a un instant, des plantes que l'on mangeait. Et si cette terrasse de 50 mètres carrés devenait un petit potager avec du persil? Le persil ne souffrira pas du vent. De la ciboulette, de la tomate.
Du romarin.
Des radis.
Facile à rater le romarin. Hein.
Oui.
Des propositions, Thierry Basset, pour notre auditrice Liliane.
Moi, je me serais orienté sur des petites plantes de rocaille.
si cette dame aime les plantes de rocaille, parce que vu l'exposition, ça pourrait donner quelque chose de sympathique. Et je rejoindrai les propos d'Alain Baraton. Il y a tous les aromates qui peuvent être sympathiques et qui font un complément au niveau de la cuisine et qu'on peut cultiver tout simplement dans un petit bac sur son balcon. Et c'est sympa, c'est un coin de campagne qui arrive chez vous en ville.
Noël, si Bréa, mettre... vous-même, vous avez un balcon.
Moi, j'ai un balcon. Alors, pour les plantes de vent, alors c'est vrai que la plante de rocaille, elle craint pas la sécheresse parce que le vent, ça sèche. Mais il y a des plantes comme la sauge que j'ai volée chez toi et qu'on trouve dans toutes les jardineries.
Chez Baraton.
Chez Baraton, dans le jardin du Grand Trianon. Oui. Voilà, je précise pour ceux qui veulent un petit peu de sauge, vous en trouverez chez Alain Baraton au Grand Trianon.
Merci
maintenant,
du tuyau.
Il y en a de toutes les couleurs. Mais maintenant, il y en a de la bleue en jardinerie aussi. Mais ça pousse tout seul, ça s'accroche bien, ça aime pas trop le froid, mais enfin, Maison Alfort, souffle vraiment les hivers très rigoureux, il ne fait pas si froid que ça. Et ça résiste au vent et ça demande peu d'entretien et c'est très joli.
Nous avons un autre auditeur, Gilbert, qui nous appelle de Blois. Bonjour Gilbert.
Bonjour. Oui, je voulais faire état du décalage qu'il y avait entre la profession d'horticulteur et de vendeur en jardinerie, qui est d'une technicité devenue de tous les instants, d'une attention de tous les instants, pour permettre aux clients d'avoir de belles plantes, et ces clients qui réagissent autant qu'il fait. C'est-à-dire, il fait beau, ils vont acheter, il fait pas beau, ils vont pas acheter. Ils ne programment pas la mise en place de leur jardin, ce qui oblige les horticulteurs et les professionnels de la vente à jongler dans des conditions techniques et économiques ahurissantes et qui souvent ne récompensent pas leurs efforts. Je pense qu'il y a un organisme interprofessionnel donc qui s'occupe de l'horticulture qui devrait faire passer des spots publicitaires en plus des émissions qui sont très bien faites comme celle de Noël Bréham, mais pour bien rappeler aux gens qu'un jardin de printemps, ça se prépare un petit peu dans sa tête en hiver et on va en jardinerie, même quand il fait pas beau, pour l'installer et on n'est pas sensible au premier coup de soleil pour acheter une plante qui va crever. Enfin, ça, c'est toute une démarche de construction d'un jardin et non pas ces achats d'instinct qui mènent souvent
à
rien.
Qui sont très ensuite, impulsifs.
Voilà. Et ensuite, insister sur la technicité qui est devenue le métier d'horticulture. C'est des gens qui sont obligés de s'adapter à une révolution technique, une révolution économique et qui ont en plus à subir le climat. Et chapeau bas à cette profession qui quand même arrive à satisfaire les gens.
Eh bien, vous allez droit au cœur de Patrick Laurie, qui préside la Fédération nationale des métiers de la jardinerie. Que pourriez-vous répondre à Gilbert, Patrick Laurie?
Je confirme, c'est effectivement sept métiers qui tournent autour de nos magasins. On a les pépiniéristes, on vient d'en parler. On a le marché aux fleurs et l'horticulteur que ça peut représenter. On a également les végétaux d'intérieur et la fleuristerie. Donc, il nous faut des spécialistes en fleurs. On a effectivement la quincaillerie horticole et les anciens grainetiers qu'on représente aussi également. Tout ce qui est amendement, tout ce qui est éventuellement soin de la plante. On a également tout ce qui est équipement de jardin et dans notre profession, on a également l'animalerie. C'est-à-dire qu'on englobe le tout. Mais il est effectif que les jardineries sont les seules à détenir à l'année du végétal. Et effectivement, c'est à l'année que ça doit se concevoir, un jardin. Et le fait d'être spontané crée souvent un manque de réussite.
Alors, parmi les mutations, parmi les évolutions en cours, Noël Bréham, il y a une préoccupation qui s'est fait jour depuis quelque temps, c'est la préoccupation écologique. On ne s'occupe plus de son jardin comme on s'en occupait auparavant. L'idée d'utiliser des désherbants, d'utiliser des produits chimiques, des intrants, comme on dit, est une idée de plus en plus critiquée. Que faire si l'on veut avoir un souci écologique? Quelles sont les modifications à faire dans ce domaine-là?
Il faut être franc. Il faut de l'huile de coude. Alain Baraton le dit tous les samedis et dimanches matin. Ça n'existe pas d'obtenir sans effort dans aucun domaine que ce soit. Si vous voulez jouer du piano, il faut déchiffrer votre musique. C'est un peu fastidieux au début. Et c'est très satisfaisant après. Les exemples sont multiples. Il faut éplucher ses légumes pour faire la cuisine. Il faut désherber à l'huile de coude. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais il y a des systèmes plus doux. Il y a des désherbants plus doux, mais malgré tout, il faut quand même mettre les mains dans la terre pour jardiner, quoi.
Alain Baraton. D'autant plus que le jardinage est la meilleure méthode médicale pour lutter contre l'obésité. C'est une activité qui vide la tête. C'est Freud lui-même qui disait que son travail n'avait peut-être servi à rien. Il aurait peut-être mieux fait de cultiver son potager. Non, non, le jardin sans produits, c'est tout à fait possible. Il va y avoir bientôt des obligations de stopper la dispersion de tous ces pesticides. Pesticides, je rappelle, est un mot qui rime avec homicide, régicide, etc. Donc c'est tout à fait possible. Il faut surtout arrêter aujourd'hui de croire que les produits, c'est la panacée. On achète des produits pour enrichir ceux qui les fabriquent, quantité de produits ne servent à rien. Je vais vous donner juste une anecdote. Les produits cicatrisants, c'est ce que l'on met sur les plaies des arbres que l'on a taillés, ne servent à rien. Ça a été reconnu, c'est prouvé. Mais on continue d'en produire, on continue d'en acheter. C'était pas très grave, ça ne pollue pas. Mais aujourd'hui, il faut arrêter de mettre tout et n'importe quoi. On accompagne la plante, on ne la contraint pas.
Votre avis, Patrick Lory, qui représentait Chantilly ici?
Alors, moi, c'est Thierry, mais c'est pas grave. Alors, le thème de des journées des plantes cette année, c'est la transmission. Et ça va tout à fait avec ce qu'on entend depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, quels sont les arbres, les arbustes, les vivaces et les bulbes aptes à résister aux époques et aux modes?
Je crois que Guillaume ne sait pas ce que c'est qu'une vivace.
Alors, une plante vivace. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une
plante? C'est une plante qui vit bien.
C'est
m'embêtez pas, Noël Bréham.
Ne lui posez pas la question, expliquez-lui. Alors, c'est une plante qui reste d'une année sur l'autre.
Voilà,
la plante, tu la récupères l'année d'après.
Voilà, on la récupère l'année d'après. Et c'est tout à fait tendance, puisque aujourd'hui, les gens veulent quelque chose qu'on installe et qui dure dans le temps. Comme disait tout à l'heure notre ami Patrick.
Alain Baraton.
Patrick Lory et Alain Baraton.
Vous voulez mon anti-sèche?
Quand on installe une plante, c'est pour des années. Et elle fleurit, elle s'adapte doucement. Et la transmission, ça, justement, c'est l'objectif de cette manifestation, c'est de démontrer qu'il existe encore des végétaux qui perdurent dans le temps.
Patrick Lory,
moi, j'ai un petit commentaire sur les herbicides. Moi-même, jardinier amateur de week-end, je ne mets plus d'herbicides depuis très longtemps dans mon jardin vivrier. Il y a bien longtemps que ça me fait peur de mettre du glyphosate éventuellement pour désherber mon jardin potager qui est petit et qui effectivement mérite un peu d'huile de coude. Et l'huile de coude permet de prendre le temps de regarder ce qui s'y produit.
Ouais.
C'est en plus le moyen de la découverte de la culture. Mais méfions-nous quand même, c'est que pour soigner la plante, il ne faut pas interdire tout. Parce que dans certaines régions, la pomme de terre ou la tomate ne pourra plus être cultivée si on n'a pas des produits ou de substitution ou des matières actives qui ne soient effectivement non nocives. Mais prémunissons-nous de cette possibilité.
La régie évoque la bouillie bordelaise.
Vas-y.
Alors, la bouillie bordelaise, c'est parfait. C'est le produit de base qu'on utilise depuis des siècles.
Ça, c'est pas un produit chimique.
C'est un produit chimique. Mais si vous décomposez la bouillie bordelaise, c'est des éléments qu'on trouve à l'état naturel, dans la nature, et qu'on peut
C'est de la chimie naturelle.
Non, ça, c'est comme les gens qui disent, ça peut pas vous faire grossir, c'est rien que du beurre, des œufs, du sucre, du chocolat. La bouillie bordelaise, c'est du produit chimique.
La bouillie est nocif.
Non, je crois qu'il faut simplement respecter les plantes tout à fait. Déjà, adapter la plante à son jardin. Je trouve aberrant aujourd'hui de planter une plante qui a besoin d'eau dans une région sèche, surtout si on n'y va pas pendant des mois. Mais je voudrais donner un petit conseil aux auditeurs. C'est qu'ils aillent dans leur armoire à produits chimiques et qu'ils regardent bien le produit. Souvent, il y a marqué systémique. Alors, c'est très bien des produits systémiques. Un produit systémique, c'est un produit qui est absorbé par la plante. Si la salade n'a pas de puceron, c'est tout simplement que la sève à de l'insecticide et la plante ne sera pas piquée.
C'est délicieux ce que vous dites.
Donc, je vais donner un conseil.
La sève de la salade a des...
Ben oui. Donc, dès l'instant que le produit est systémique, gagnons du temps, inutile de laver le produit, le pesticide est dans la plante.
Nous allons écouter Michel qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, vous voulez nous parler du prix des plantes?
Non, moi, je suis affolée par les prix qu'ont pris les plantes en jardinerie. Que des plantes difficile à bouturer ou à reproduire, soit un petit peu cher quelque part, c'est normal. Mais les plantes courantes, style pétunia, œillet d'Inde et tout ça, ont atteint des sommets, alors que c'est des trucs qui se ressèment tout seuls et qui se replantent facilement.
Donnez-nous des exemples de prix qui vous affolent, Michel.
Je ne les ai plus en tête, mais je crois que ça revient dans les... L'an dernier, un œillet d'Inde, c'était bébé, hein, dans les packs de 6 ou de 8, c'était dans les 1 euro. La plante, pour un petit bébé œillet d'Inde ou pétunia, moi je trouve que ça atteint des sommets. Monsieur Baraton parlait du prix des arbres, mais ça c'est même pas la peine d'en parler, quoi. C'est plaisir des yeux quand on va dans un magasin comme ça. Et ça pousse les gens à acheter de la production hollandaise et compagnie dans des styles Lidl, Norma et trucs où ils font régulièrement des prix à des arrivages, avec des arrivages de plantes hors saison en plus, à des prix qui cassent tout, et c'est pas normal.
Patrick Lory, qu'auriez-vous à répondre, vous qui représentez les jardineries?
Je témoigne que parfois les prix sont peut-être élevés effectivement, mais il y a un travail conséquent de la part de nos producteurs. Ce sont des gens, je vous parlais d'engouement tout à l'heure, c'est le même principe, on a l'engouement de l'agriculture par le salon, et tous les paysans et tous nos agriculteurs sont en peine. C'est vrai aussi dans l'horticulture. Les sommes, enfin les prix qui sont abordés ne sont qu'au reflet de ce qui se passe au niveau de nos obligations. Et les obligations, c'est une TVA qui a encore augmenté sur des plantes qui sont effectivement, c'est passé de deux augmentations là dernièrement, entre du 5,5 à 7 aujourd'hui, à 10. On subit tout ça. Donc je suis d'accord qu'effectivement on pourrait avoir des prix inférieurs ou des plantes plus petites peut-être pour mieux adapter éventuellement ces moyennes pousses. Mais je vois que Noël souhaite prendre la parole.
Dites-moi. Non, mais c'est pas pressé, mais ce qu'il y a, c'est que dans les plantes comme dans le reste, ce qui est rare est cher. Donc là, elle évoque l'œillet d'Inde, qui est une plante effectivement classique, qu'on trouve partout, qui est ravissante. D'ailleurs, c'est increvable, ça dure tout l'été, c'est assez lumineux, c'est un peu une plante de grand-mère, hein, qu'on avait autrefois. En plus, je crois, Alain, que ça éloigne les insectes, ça éloigne l'œillet quelqu'un,
d'Inde. C'est ce qu'on disait dans le temps. Oui, ouais. C'est-à-dire que l'avantage, effectivement, quelques racines dégagent des senteurs qui mettraient loin les petites bestioles. Non, mais je vous rappelle quand même qu'une douzaine de pétunias coûte quand même moins cher qu'une douzaine d'huîtres.
Et
que pour produire. Non, mais que pour produire des pétunias, c'est autant de temps que pour produire des huîtres.
Vous avez déjà essayé de manger des pétunias,
oui.
Hein?
Oui, il y a des plantes qui se mangent. Oui, nous tous. Oui.
Mais il y a quand même des plantes qui sont, par exemple, comme on verra chez vous à Chantilly, Thierry, il y a des plantes rares qu'on connaissait pas, qui sont nouvelles, qui sont c'est vrai que ça vaut un peu d'argent, quoi. Là, moi, je comprends. J'aime mieux faire mes graines moi-même et puis garder mes sous pour une plante que je peux pas produire.
Vous avez des petits producteurs qui mettent des années à produire leurs plantes et qui vont la produire à une centaine d'exemplaires et qui n'auront qu'un seul moment pour les commercialiser au travers d'une journée.
Nous avons un autre auditeur, Patrice, qui nous appelle. Bonjour, Patrice.
Oui, bonjour. Oui, je téléphonais pour trois petites remarques. Premièrement, par rapport aux personnes qui ont déjà un certain jardin d'une certaine surface, je crois qu'il est indispensable, fondamental, d'avoir une révolution des mentalités et de laisser une partie sauvage dans son jardin. On peut pas imaginer le plaisir que c'est d'aller voir les insectes progresser dans cette sans carré de pelouse laissé à l'état sauvage. Mm-hmm. Les orties sont très importantes pour les papillons, je crois. Mm-hmm. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, je pense que aussi il faut se pencher sur le problème des récoltes que l'on peut pas reproduire de ses propres semences, puisque je crois qu'il y a des brevets déposés par les semenciers qui sont complètement scandaleux.
Oui, alors ça fait partie effectivement des questions que l'on nous pose sur Internet.
Je crois aussi qu'on peut se poser des questions par rapport à la commercialisation de nombreuses plantes en pot où très souvent la terre n'est qu'un ersatz de terre très légère et parfois mélangée avec une espèce de polystyrène. Je crois que là aussi il y aurait quand même beaucoup de choses à dire, quoi.
Eh bien, on va les dire immédiatement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça suscite? Tout d'abord, l'idée qu'il y ait effectivement une sorte de brevet sur le vivant pour les plantes, pour vous, professionnels de la jardinerie ou des jardins, Thierry Basset.
Alors, concernant les brevets, moi je dis que c'est tout à fait légitime. Quand on passe des années à produire une plante, un arbuste ou un arbre, il est normal qu'on, quelque part, quand on l'a soigné, qu'on en a fait ce que l'on veut en faire, qu'on ait l'exclusivité de cette plante. Je suis tout à fait d'accord sur le fait de protéger les plantes au travers des brevets. Ensuite, comme si j'écoute l'auditeur, la partie sauvage dans nos parcs et jardins d'une certaine taille, notamment domaine de Versailles, etc., il y a déjà un petit moment qu'on a pris ça en compte par des facteurs économiques, tout simplement. Parce qu'on n'a pas forcément toutes les ressources économiques pour entretenir l'ensemble de ces grands domaines. Et le fait de retourner à la nature nous permet de faire un fleurissement naturel, de faire de la biodiversité, de protéger des insectes, etc.
La biodiversité à la marathon
est une priorité à Versailles, effectivement. Des endroits ont été non pas laissés à l'abandon, mais on laisse la nature s'exprimer. Nous constatons que cette méthode a permis le retour des oiseaux, donc la limitation des insectes. Aucune goutte d'insecticide n'est dispersée à Versailles. Je vous invite à venir, vous verrez, l'endroit est délicieux. Je voudrais revenir par contre sur l'appropriation des plantes. Alors autant il est normal qu'un rosieriste, par exemple, soit propriétaire du rosier qu'il a créé, autant il est scandaleux que de grandes sociétés se soient appropriées les graines, je pense aux graines vivrières, et aujourd'hui si une graine n'a pas été inscrite au catalogue, qui est une sorte de registre officiel, on n'a pas le droit de la vendre. Si Noël, par exemple, avait dans son jardin des graines de tomates que son grand-père faisait, qu'il tenait lui-même de son arrière-grand-père, elle n'aurait pas le droit de vendre, voire même de donner ces graines sous prétexte qu'elles ne sont pas au catalogue.
Nous avons consacré effectivement une émission à cela, et c'est effectivement quelque chose d'absolument incompréhensible, comment peut-on interdire de planter des graines de substances tout à fait licites, hein, là, un barato, puisque je vois faire la moue. On écoute Dick Annegarn, sacré géranium, car il est question de jardinerie. Et tout de suite après, on va continuer à évoquer ce que l'on peut planter, comment choisir ces plantes, avec la visite de Thomas Chauvineau dans une jardinerie.
Sacré géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins? Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Service public sur France Inter, il est question des jardins. On en parle en compagnie de mes camarades Alain Baraton et Noël Bréham, que les auditeurs connaissent bien, de Thierry Basset qui s'occupe du domaine de Chantilly et de Patrick Laurie qui représente ici les jardineries, avec Stéphane qui nous appelle de Corse. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Stéphane.
Donc, merci d'avoir pris mon appel. Non, simplement, je voulais vérifier avec vos interlocuteurs si ceux-ci étaient informés de l'arrivée en France d'un insecte ravageur, la Xylella fastidiosa, qui représente un réel problème à la fois écologique et économique, puisque c'est un insecte qui voyage sur les plants qui sont commercialisés par les pépiniéristes, qui sont essentiellement en provenance d'Italie pour l'instant. Donc je sais qu'au niveau de la région, il y a une grande inquiétude qui se développe. Donc je voulais
aussi informer
les auditeurs et avoir la réaction de vos interlocuteurs sur ce sujet.
Eh bien, on va immédiatement poser la question à nos camarades. Alain Baraton est au taquet.
J'ai déjà évoqué ce problème sur les ondes d'Inter un matin, et je reviens sur ce que je disais il y a un instant, à savoir qu'il faut prioritairement acheter local. Effectivement, il y a aujourd'hui quantité de bestioles qui circulent, la mineuse du marronnier, je pourrais vous parler également de la pyrale du buis et de quantité d'autres bestioles. Avant, les bestioles, elles voyageaient par les airs. Maintenant, elle voyage en camion. Donc, elle gagne un temps absolument énorme. Donc, le commerce disperse aujourd'hui des oliviers, parce que je crois qu'il s'agit d'oliviers, encourage la dispersion de cette petite bestiole. Vous parliez au tout début, Guillaume, de la mode. La mode aujourd'hui est à l'olivier. On en plante partout. On en plante au nord de la Loire. On en plante au sud de la Loire. Et on
vous
attend.
Vous dites ça parce que j'en ai planté dans le nord de la Drôme. Et bien, c'était une question de ma femme pour savoir si on pouvait planter des oliviers dans le nord de la Drôme.
Évidemment, c'est de la faute de votre.
Chacun est libre d'être irresponsable, bien évidemment. Bien sûr qu'on peut en planter, c'est
comment
joli.
Parce que planter des oliviers dans le nord de la Drôme, c'est irresponsable.
Est-ce que quand vous vous promenez dans cette région, vous traversez des forêts d'oliviers? Non, ce qui prouve bien que c'est pas l'espace naturel de cette plante. Restons dans la localité, pratiquons le régionalisme végétal. Et vous verrez.
Donnez-moi le numéro de madame.
Et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de problèmes, car le commerce à grande échelle de toutes ces plantes favorise malheureusement la dispersion des maladies, insectes, virus, champignons et bactéries.
Bah maintenant qu'il a son olivier, le Guillaume, il fait quoi?
Eh ben, il le regarde, il l'aime, il le chouchoute, mais il se dit qu'un jour, un hiver sera peut-être plus rude que les autres, et malheureusement, il mourra, et il ne faudra pas ce jour-là venir pleurer.
Mais dites donc, Alain, les oliviers, ils peuvent quand même résister au gel?
Vous plaisantez, j'espère. Tout dépend de la durée du gel et tout dépend de l'intensité. Mais je vous assure que quand le froid tombe d'une manière brutale, que la glace s'enfonce dans les profondeurs de la terre, eh bien, je ne donne pas cher de votre olivier.
Thomas Chauvineau, notre reporter, voilà, m'a offert une plante qui ne meurt jamais, contrairement à ce que pense Alain Baraton. Compte tenu de celles qui sont sur mon balcon, on pourrait faire un film, l'équivalent donc de Walking Dead, un film de zombies, parce que Thomas Chauvineau considère que mon balcon n'est pas un très joli balcon. Alors c'est vrai que je ne suis pas très soigneux avec les plantes.
Elle n'a rien prévu, votre femme, pour votre balcon, non?
Ben voilà, ma femme n'a pas vraiment la main verte. Thomas Chauvineau a donc trouvé celle qu'il me fallait avec un micro caché dans une jardinerie.
Monsieur, bonjour. Bonjour. Je voudrais mettre une petite plante sur mon balcon.
Oui.
Mais j'ai pas du tout la main verte. Mais quand je dis j'ai pas du tout la main verte, j'ai vraiment pas la main verte, quoi, vous voyez?
Oui, je vois très bien. Le fuchsia, si vous voulez, c'est sympa. L'arroser deux fois par semaine, le fuchsia.
Deux fois par semaine? Alors, l'autre contrainte, c'est que... Oui. Il m'arrive de partir parfois pendant 15 jours, 3 semaines.
Là, les plantes, il faut les arroser. Hein. Bon. Alors attendez, à part le fuchsia. Attendez, je vais juste vous montrer cela.
Ouais.
Le dipladénia, à la rigueur, c'est ceci, il demande moins d'eau.
Dipladénia.
Je vous les mets dans un sac.
Super, donc ça, c'est sûr, pendant 15 jours. Si elle fane, je reviens
c'est
vous
sûr,
voir.
C'est sûr, mais. Dipladénia, ouais, enfin. C'est sûr, oui, normalement, je peux pas le certifier à 100%.
Et ça, la conservateur, ça sert à quoi?
Des fleurs coupées, ça.
Ah oui, c'est pas pour... Je peux pas mettre le conservateur des fleurs coupées dans le dipladénia.
Non, pas du tout.
Mais ça marche? Ça conserve vraiment les fleurs?
Je sais pas exactement. Franchement, on vend ça, mais on dit que c'est de la nourriture. Après, j'ai pas vérifié si c'est de la pluie maintenant, je peux pas vous dire.
Vous vendez un truc que vous savez pas.
Voilà, bon.
C'est comme j'ai lu, parfois on mettait des pièces de monnaie au fond de...
Oui, on peut mettre des glaçons, on peut mettre une goutte de Javel, on peut mettre... Il y a plein de trucs, mais c'est des trucs qu'on trouve comme ça, bon, qui servent, des fois qui ne servent strictement à rien, et des fois qui servent, comme par exemple la goutte de Javel l'été quand il fait chaud, pour empêcher l'eau de tourner trop vite. Tout ça, c'est utile. Alors après, l'aspirine, machin, tout ça...
Ah, l'aspirine aussi, on peut?
Oui, j'en ai mettre, je trouve ça ridicule, mais bon, après, c'est... Pourquoi pas,
Je vous dois combien pour cette plante magique qui...
18,50.
Ah, une chose aussi que j'ai pas dite, mon balcon est plutôt au nord, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a de la lumière, quoi,
mais... Oui, mais si vous n'êtes pas en plein soleil, c'est mieux. Madame, je vous laisse regarder.
Il y a une question à vous poser, en fait.
D'accord, très bien.
Vous avez la main verte, vous?
Pas du tout.
Ah, parce que moi non plus, alors il paraît que ça, on n'est même pas obligé de l'arroser, ça vit tout seul, en autonomie, quoi.
J'ai réussi à faire mourir du lierre, donc...
Réussir à faire mourir du lierre, c'est grave, ça?
Du lierre, faut quand même y aller, ouais, parce que c'est un parasite, donc...
Voilà, il est mort.
Bon, monsieur, bon courage avec votre plante.
Eh ben, merci.
Et bonne soirée.
Je vous tiendrai au courant.
D'accord.
Au revoir.
Alors, résultat des courses, Thomas Chauvineau m'a offert cette plante. Alors, si on peut appeler ça une plante,
ouais,
c'est vert. Ça a des petites fleurs rouges. C'est quand même pas très joli, Noël Bréham.
Moi, je la trouve très bien. Et il faut
c'est
enlever...
quoi?
J'en sais rien. Les garçons, qu'est-ce que c'est?
C'est un dipladénia.
Dipladénia.
Regardez, ses feuilles sont d'un joli vert. Elle a plein de boutons. C'est d'un rouge profond, un petit peu
elle
comme
très,
les fleurs
elle
de tabac.
Très, très belle, oui.
Elle a un très beau rouge parce que son pot est trop petit. Il faut la mettre dans un pot plus grand. Elle a deux arceaux par-dessus qui font tarte.
Il faut la soutenir, c'est pour ça qu'elle
est là. Elle est très jolie. Et puis une plante toute seule, ça ne veut rien dire. Les plantes, c'est comme les gens. Ça s'associe. Et donc ça dépend avec qui vous l'installez.
Et puis ça se respecte surtout. On voit que cette plante a été achetée, elle était certainement dans de très bonnes conditions. Mmh. Et puis on s'est comporté depuis comme si c'était un paquet de viande. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris soin de l'arroser. Elle a dû être chahutée si on en voit l'état. Donc c'est une très belle plante. Mais les plantes, je le rappelle, sont des êtres vivants qui demandent de l'attention et de la délicatesse. Et en plus cette plante, elle n'a pas été non plus produite pour rester dans son pot. C'est une plante qui doit soit se ramasser dans un cache-pot, soit plantée en pleine terre. Mais c'est une très jolie plante qui, aujourd'hui, on parlait des modes tout à l'heure, le Dipladenia est très très à la mode. Par contre, contrairement à ce que j'entendais dans le reportage, non, ça demande quelques soins. Mmh. C'est une plante qui est frileuse, quelque peu, et qui a besoin vraiment d'un très bel emplacement.
Donnez-la-moi, je vais la rendre très jolie.
Oh, je ne sais pas si on va
sa floraison
l'offrir, elle est très discutée.
Le soleil qu'on lui garde,
tirer les feuilles, les fleurs fanées.
Il faudra du soleil pour que la floraison perdure.
Oui, tout à fait.
Donc les garçons, vous voyez, ils disent la même
chose. Et elle gèle, hein.
Il faut s'en occuper.
Nous avons Guillaume au standard. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez des Deux-Sèvres.
C'est ça.
Et nous vous écoutons.
Alors, bah, pour commencer déjà, un grand merci à Alain Baraton, que j'écoute tous les week-ends.
Vous êtes un homme de goût.
Merci. C'est un ami à vous, Alain.
Non, et je pense qu'il devrait avoir une émission à lui tout seul. Ah. Non, je voulais juste rapidement pour rebondir sur un peu ce qui a été dit. Sur le fait de garder des zones sauvages dans son jardin, moi j'ai un grand terrain, j'habite en campagne, c'est vrai que c'est très agréable de voir les animaux venir se réfugier, se développer. Le partage des plantes, des semences et tout, également, j'ai par exemple un magnifique laurier sauce qui s'est développé ces dernières années. L'automne dernier, j'en ai bêché une moitié que j'ai offert à ma mère, qui l'a replanté chez elle à 300 km de chez moi, mais il est bien reparti et elle pourra l'utiliser pour sa cuisine.
Ben voilà, votre mère,
transmission.
Elle a un laurier pour pain rond.
Voilà. Et bah, ils se développent en plus énormément, donc moi j'en ai trop pour moi après. sinon, deux questions rapides. Un, c'est ce que vous pensez du calendrier lunaire, parce que j'ai plein d'anciens autour de chez moi qui l'utilisent, j'ai testé moi-même. J'ai pas trouvé que c'était vraiment probant. Et une autre question, c'est ce que vous pensiez de l'association Cocopélie, qui a été honteusement attaquée en justice par Monsanto pour garder le monopole des semences.
Source. Merci Guillaume. Alors sur Cocopélie, on a déjà abordé en partie cette question des semences. Il y a effectivement l'association Cocopélie. Il y a d'autres associations qui proposent donc de donner des graines, ce qui peut être illégal, mais ce qui peut être moralement défendable. Il y a beaucoup de trocs de graines de plantes qui sont organisés. Bref, il y a aussi des procédures alternatives pour faire son jardin, Noël Bréham.
Le troc de graines, on peut faire ce qu'on veut avec ces graines. On ne peut pas les commercialiser. Mais moi, si je veux avoir une petite poignée de graines de cosmos au fond de ma poche et de vous les offrir, Guillaume, je... Bon, voilà.
C'est, mais Cocopélie les commercialise.
Cocopélie les commercialise.
Juste une petite erreur, ce n'est pas Monsanto qui s'est attaqué à Cocopélie, c'est un autre grainetier. Et c'est grave qu'un grainetier s'attaque à un autre grainetier.
Donc ça, c'était pour la seconde question. Pour l'autre question, le calendrier lunaire, est-ce que vous l'avez essayé, Alain Baraton ?
Non, parce que moi, je me fie à ce que m'ont appris les maîtres en jardin, et le plus grand jardinier pour moi de tous les temps est Jean-Baptiste de la Quintinie, qui s'est intéressé à la question et qui a dit, je cite, « La lune est le prétexte des mauvais jardiniers ».
Donc en fait, la lune ne fonctionne pas, contrairement à toutes les légendes qui...
Moi, ma maman me disait qu'il fallait se faire couper les cheveux à la lune montante. On voit le résultat. Je n'y crois pas du tout.
Non, mais chacun a le droit d'avoir ses croyances. Probablement que ça marche. Je crois, c'est pas je sais.
Ça marche une fois sur deux.
C'est comme credo, c'est comme crédit. On pense qu'on va être remboursé, mais on n'est pas sûr.
Voilà.
Mais pourquoi pas? Cela dit, ça fait du travail supplémentaire. Ça dépend de l'énergie dont on dispose aussi. On peut croire à la lune sans non plus aller se compliquer la vie. Ça complique un peu.
Un autre auditeur, Hugo, est au standard. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Hugo.
Je vous appelle de Normandie. C'est juste un message assez rapide pour vous dire que je pratique un peu plus que le jardinage depuis 4-5 ans. Et c'était pour passer le message que je voulais inciter à fuir les jardineries, en fait, parce que...
Fuir les jardineries
moment, oui, oui, parce qu'à partir du moment où on a une pratique, que ce soit raisonnée ou même, même occasionnelle ou quoi que ce soit, de, du jardinage, on peut totalement se passer d'absolument tout ce qu'il y a dans les jardineries, faire ses plantes soi-même, acheter des outils d'occasion, échanger des graines avec ses amis, faire des boutures. Je pense que les parkings de 1000 places blindés tous les dimanches et avec des prix exorbitants à 5 euros le pied de melon, etc. Enfin, j'incite vraiment à fuir, à pas aller dans ces magasins-là. Il n'y a pas du tout besoin de...
Il n'y a quand même pas que ça, Hugo. Il n'y a pas que des jardineries avec des parkings de 1000 places. Votre avis qui n'est évidemment pas le même que celui d'Hugo Patrick Lory.
Vous m'interpellez. On est là, nous. Notre rôle était, et toujours été le mien, parce que j'ai pratiqué pendant 40 ans, étant moi-même... mis en œuvre des magasins et les exploiter et les diriger. Mon rôle était de sélectionner le meilleur produit au meilleur prix. Alors c'était vrai que je prenais ou soit sur la plante, ou soit sur la matière active, ou éventuellement soit sur le paquet de graines. Je comptais mes graines de radis parce que mes jardiniers vendéens que je traitais à l'époque, ils étaient capables de tâter le paquet pour savoir combien il y en avait. Et je suis resté dans ces principes-là que nous sommes des sélectionneurs de produits. Alors après, si le prix dérape, il faut que nous en discutions, mais on peut tout faire soi-même. On va faire son pain, on va faire ses voitures, on va faire ses ordinateurs. Ça me paraît bizarre de dire que il y a une surenchère du prix dans les professions que nous représentons. Nous sommes très attentifs et certainement que le melon qui peut être éventuellement greffé nécessite un prix comme il a été cité, mais il y a une technicité derrière. Je pense que ça mérite... moi, je respecte mes fournisseurs. J'ai toujours eu cette attitude et ça m'interpelle. On parlait du prix tout à l'heure et je suis surpris de cette réaction.
Puis certains producteurs ont besoin de votre filière pour écouler une partie de leur production. Il ne faut pas l'oublier. En jardinerie, on ne trouve pas que des choses produits à industrialisation. Il y a des petits producteurs qui ont des contrats de culture avec des grands noms de la jardinerie et qui sont contents d'avoir ces contrats de culture parce que pendant 3 ou 4 ans, ça leur permet de vivre tout simplement.
Votre avis, Noël?
Il a raison et pas raison. À l'ouest de Paris, il y a une jardinerie dont je ne citerai pas le nom qui vient de croquer un bon morceau de forêt pour installer et son magasin et son parking, et c'est juste désolant. Mais parallèlement à ça, d'aller dans une jardinerie, surtout quand on n'est pas très bon en jardinage ou qu'on est un peu citadin, on n'est pas obligé. Il faut y aller en étant raisonnable. On n'est pas obligé de se laisser emporter. On peut prendre des idées, on peut prendre des conseils. Donc il faut y aller en étant un petit peu méfiant. Il faut, vous l'évoquiez, tâter le paquet de radis pour compter les graines, Patrick Lory. Donc et puis les jardineries sont comme les autres. Il y en a des
Voilà. Anne nous demande sur Twitter quel est le secret pour faire pousser du basilic. Tous les pots que j'ai achetés meurent lamentablement au bout de quelques jours. Alain Baraton.
Avoir la main verte, c'est un métier. Je veux dire que le jardinage s'apprend et on a l'impression qu'une plante, parce qu'elle est là encore à la mode, le basilic, eh bien il suffit d'acheter la petite plante, de la repiquer éventuellement et de la mettre sur son balcon et d'attendre la récolte. Eh bien non, il y a des plantes qui exigent une exposition précise, un ensoleillement précis, un arrosage régulier.
Surtout sur le basilic.
Voilà. Et le problème, effectivement, je connais quantité d'amis, je vais en dénoncer un, Fabrice Drouel, par exemple, que nous connaissons bien ici, qui tous les ans achète du basilic et tous les ans n'arrive pas à le garder parce que, justement, il est mis trop près de la vitre. Il y a donc un reflet du soleil parce qu'il ne l'arrose pas suffisamment, flétrissement rapide et dépérissement du végétal.
Moi, je défends Drouel. Je défends Drouel parce qu'on vend du basilic dans dans tous les petits et grands supermarchés, pas forcément les jardineries. C'est du basilic qui est forcé, qui est complètement tassé dans un petit pot. Dès qu'on arrive chez soi, il faut vite l'enlever, le séparer, le mettre plus à l'aise.
Il n'y a pas la structure d'accueil, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'acclimatologie, c'est stocké dans les rôles.
Il ne faut pas oublier que c'est une plante de pays chaud, donc surtout pas la mettre dehors en ce moment où il peut faire froid encore la nuit.
Bien sûr.
Et puis, vous avez raison, mais Drouel, il n'est pas responsable de tout, parce que vraiment, c'est de la grosse...
Je l'accuse avec tendresse.
Une dernière auditrice, Isabelle, rapidement. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Je
passe un message pour tous ceux qui rencontrent des souffrances au travail ou tout simplement un gros stress, qu'ils mettent leurs bottes, leurs sabots et qu'ils aillent faire un tour au jardin. Moi, j'ai pas découvert ça, j'ai grandi en ville, mais mon papa avait vraiment la main verte et adorait être au jardin, il adore toujours. Et moi, je me mets dans le jardin, je taille une branche, je désherbe. La question des herbes folles me dérange pas du tout. Quand j'en vois qui me gênent un petit peu, hop, je les enlève. Parfois, ça me prend des heures pour quelques mètres carrés. Mais quand je rentre à la maison, eh bien, je me sens bien. Et je me sens totalement sereine. Donc je voulais recommander ça à tous ceux qui ont le moindre petit problème au travail. Même sur un balcon, hein. Je le faisais avant quand j'étais en ville. J'avais toujours un petit balcon. D'ailleurs, j'ai beaucoup suivi Noël Bréham sur Silence, ça pousse. Les conseils pour avoir un beau balcon.
Je le recommande. Ce sont les conseils de Stéphane. Moi, je conseille pareil.
Et de Stéphane, bien sûr. Et ça fait un bien fou.
Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. Il nous reste quelques instants, peut-être un conseil pour nos camarades auditeurs qui voudraient jardiner ce week-end. Alain Baraton, une suggestion?
Suivre l'exemple d'Isabelle, le jardin c'est du bonheur. Tout simplement en profiter, regarder et respirer.
Noël Bréham, un auditeur vous attend sur son balcon. Peut-être que vous irez le rejoindre. Je vous donnerai ses coordonnées, mais en dehors de ça.
Elle a raison, l'auditrice. Planter, même qu'on ait 50 hectares ou qu'on n'ait même pas de balcon, c'est fou ce que ça fait du bien. Mais planter n'importe quoi, tout ce qu'on a nous sous la main, mais même un haricot que vous avez eu à l'épicerie, vous le mettez dans un verre avec une poignée de terre et vous regardez ce que ça donne. C'est amusant.
Ça, c'est une possibilité. Et puis, si on veut entrer dans une jardinerie, Patrick Laurie?
Eh bien, écoutez, nous, on a 20 000 personnes que je représente qui sont tous à vous accueillir. C'est le moment et on vous attend avec beaucoup de sourires. Je vous remercie.
Voilà, il n'y a pas que des jardineries avec des parkings 2000 places. Il y a aussi le 15 mai prochain, Thierry Basset, à Chantilly, les Journées des Plantes de Courson.
Tout à fait. Et là, c'est 250 professionnels qui vont vous accueillir ces jours-là pour vous conseiller et vous vendre des plantes, des très jolies plantes, même de la graine. Il y en a pour tout le monde.
Merci beaucoup à tous les quatre. Je rappelle également l'ouvrage d'Alain Baraton, l'encyclopédie Flammarion du jardin, créer, choisir, planter, entretenir, tailler. Bonjour Leïla.